Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
La curiosité est un vilain défaut.
Dans La chair interdite, j'ai eu envie d'enquêter sur une des plus grandes énigmes de l'humanité, celle du sexe de la femme.
RTL.
De quelle manière l'homme, depuis 8000 ans d'histoire, se rapporte à l'organe de son plaisir et de sa naissance ?
Jusqu'à 22h,
le soleil,
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues,
au zénith.
Le sexe féminin attise, excite l'imagination parce qu'il est à l'abri des regards, bien sûr, à l'intérieur du corps. Il est mystérieux, méconnu, il fait peur même parfois, et ça depuis des siècles. Bonsoir Diane Dugré.
Bonsoir.
Vous êtes écrivain et essayiste, c'est votre voix qu'on a entendue il y a quelques
sur
instants.
Sur Marvin Gaye, Sexual Healing et sur Gainsbourg, on ne l'avait jamais fait.
C'est, ça va bien,
c'est,
ça se marie
c'est
bien.
Chaud ce soir sur RTL, c'est d'enfer.
Ce sont surtout les hommes qui méconnaissent et craignent le sexe des femmes, ou les femmes aussi
C'est vrai que c'est avant
fébrile.
Tout, c'est avant tout les hommes. D'abord, c'est toujours l'altérité, l'autre qui fait peur, et puis surtout le sexe féminin. On l'entendait malgré Sexual Healing. C'est vrai que le sexe féminin va donner naissance et plaisir à l'humanité. Et d'emblée, cet organe va avoir une certaine spécificité qui va mettre une certaine pression sur le corps de la femme, et forcément une pression aussi dans le regard de l'homme qui ne voit pas tout, qui ne maîtrise pas tout. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important puisqu'il en va de la plus grande énigme de l'humanité, celle de la naissance.
Le sexe féminin, c'est un mystère. Pendant de nombreux siècles, on tente de le comprendre, de l'expliquer. Il fait fantasmer dans ce sens. On lui invente une tonne d'histoires. Par exemple, au IIe siècle, pour le médecin Galien, la femme est un homme à l'envers. Mais ça veut dire quoi ?
Oui, c'est vrai. Alors, en effet, du point de vue masculin, peut-être tout est plus visible, on va dire. Du point de vue féminin, c'est de l'ordre de l'invisible, en tout cas à l'époque. Et en effet, on va inventer beaucoup de mythes, beaucoup d'images pour comprendre. Pour Platon, c'est un museau de tanche. Pour Aristote, c'est un vase retourné à l'envers. Platon pense d'ailleurs que l'utérus est une sorte d'animal sauvage qui migre dans le corps féminin. Il écrase la poitrine, il va jusque dans la gorge. Il faut faire attention d'ailleurs que la femme n'ouvre pas trop la bouche car il pourrait s'échapper. Et on conseille justement, pour le faire revenir à sa place, des sortes de fumigations et d'autres choses très très joyeuses et très variées. Et en effet, on va mettre vraiment de nombreuses années à le découvrir, finalement jusqu'à la Renaissance.
Et d'ailleurs, pour ce médecin galien aussi, la formation des organes dépend de la température ambiante.
Oui, on ne comprend pas trop bien comment ça se passe. En fait, c'est vrai que le lien entre la fécondité, le cycle et finalement la formation des organes, ça va apparaître à nouveau très tardivement. Et en effet, la femme est plutôt froide, donc elle garde ses organes à l'intérieur, tandis que l'homme est plutôt chaud, et donc les choses sont dans l'univers en expansion.
Bon, on va continuer de parcourir comme ça certaines des croyances les plus loufoques et en tout cas surprenantes aujourd'hui. Pour la gynécologue italienne du XIe siècle, elle s'appelle Trotula de Salerne, joli nom. Une jeune femme n'ayant pas connu d'homme court un grave danger. Pourquoi ? Que disait-elle ?
Mais on pense à l'époque qu'en effet, qu'une femme qui n'a pas... Alors, on pense plusieurs choses. On pense d'abord qu'une femme ne doit pas avoir de rapport parce que la femme parfaite depuis la naissance du christianisme n'a pas de sexe. Elle est comme la Vierge Marie et donc elle n'est pas faite de chair et de sang. Surtout pas, elle est pure, et on n'imagine pas la réalité d'un corps féminin. Mais en même temps, pour certains penseurs, dont cette femme-là, si une femme n'a pas en effet de passion masculine, on va dire, pour la satisfaire, eh bien, elle va s'empoisonner avec ses propres humeurs, car un sexe féminin, c'est rempli de plein de poisons, et il faut pouvoir les extérioriser, on va
Alors
dire.
Qu'est-ce qu'elle recommande ?
Elle recommande de se donner du plaisir par elle-même, ou surtout à l'aide de femmes médecins ou d'infirmières qui voudraient bien rendre un service et une main amicale.
D'accord. Aujourd'hui, évidemment, ça nous...
Un petit coup de main.
Ça nous fait rigoler des croyances aussi loufoques. Mais à l'époque, on prenait ces enseignements. C'est une gynécologue dont on parle.
C'est une des premières, en effet.
C'est un médecin, donc ce sont des enseignements qu'on prend au sérieux à l'époque.
Ce ne sont pas qu'une ou un médecin, ce sont les plus grands penseurs de leur temps. Mmh. D'ailleurs, on trouve aussi dans Trotula de Salerne, elle ne fait pas que ça. On y trouve les premières recettes d'épilation intime pour être plus agréable à l'œil deuil peut-être. On y trouve aussi des recettes pour se faire passer pour une jeune vierge lorsqu'on ne l'est déjà plus et qu'il est trop tard, mais qu'il faut bien faire respecter l'honneur de la famille. Et d'ailleurs, les médecins de l'époque sont déjà totalement scandalisés en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que cette femme qui donne aux autres les moyens de leur immoralité ?»
Autre histoire, Diane Ducret, que vous racontez dans votre livre publié chez Albin Michel, La chair interdite. Catherine de Médicis et Henri II, qui avaient du mal à se reproduire. Qu'est-ce qu'elle, Catherine de Médicis, a été obligée de faire ?
C'est peu ragoûtant.
Mais on y va. Tout de suite. 21h33, on peut y aller.
On n'est pas obligé de le refaire.
C'est vrai qu'à l'époque, d'abord, une reine de tout temps, c'est vrai que le sexe féminin a certaines attentes. Il a certaines attentes pour toutes les femmes, mais pour une reine, de surcroît, il se doit de donner des héritiers, et mâles qui plus est. Et lorsque l'on ne peut pas en donner, alors tout d'abord, elle doit porter à la taille une ceinture en poil de bouc trempée dans du lait d'ânesse, mais surtout, les tests de fertilité de l'époque sont assez particuliers. Il s'agit d'introduire une gousse d'ail dans l'intimité de la dame qui doit la conserver pendant 12 heures. Et si le lendemain son haleine sent l'ail, eh bien c'est qu'elle est conforme. Si en revanche son haleine persiste à sentir bon la rose, c'est mauvais signe pour elle. Ça veut dire que sa matrice est défectueuse. Et alors là, il n'y a pas grand chose à faire à part dessaigner aux bras, aux jambes, boire du jus de fruits blé et s'enduire les parties de graisse d'oie, de canard et de coq, le
quelle
tout
horreur.
Ensemble.
C'est un peu
rocambolesque. Vive les progrès de la médecine, hein, ah, ça va être la leçon de cette première minute.
Oui, c'est pas mal.
Et vive la médecine quand même, parce qu'au XVIe siècle, un chirurgien découvre le clitoris. Il le découvre comment ?
Mais vous avez tout lu, c'est fou.
Bah, j'espère bien, on est sérieux.
C'était passionnant.
Surtout sur ce thème.
Mais je vous vois plus dissipé. J'ai l'impression que Sidonie est meilleur élève sur ce coup-là.
Sûrement.
Oui, et ben oui, figurez-vous, c'est vrai qu'on se disait que voilà, le fonctionnement féminin va mettre du temps à arriver au jour, à être mis au jour par les hommes. C'est vrai qu'il faut attendre quand même un certain Colon au XVIe siècle pour découvrir en effet la partie qu'il appelle l'hôte, le serviteur qui invite les hôtes. C'est assez joli pour décrire cette partie de l'anatomie féminine. Alors, ce qui est assez passionnant, c'est que il est italien, il va être recruté par le pape, appelé au Vatican, à Rome, pour faire des dissections qui sont suivies par tout l'ensemble de la curie. Mais le soir, lorsque les hommes de foi partent, eh bien, c'est plutôt vers le sud qu'il dirige le scalpel, vers une partie qui l'intéresse beaucoup plus. Et il va. Alors, c'est un certain Michel-Ange qui a beaucoup de cadavres, qui va lui en fournir en plus. C'est assez amusant. Et il va finalement atterrir vers ce nouveau monde qui était inconnu comme son prédécesseur.
Et c'est un choc, une révolution, oui. Cette découverte du clitoris au XVIe siècle.
Complètement. J'espère bien.
C'est un choc pour beaucoup. D'abord, c'est un choc pour beaucoup de scientifiques et pour beaucoup de politiques qui découvrent que la femme a donc du plaisir. Oh, mon Dieu. Et les femmes qui jouissent dès lors vont être dangereuses.
C'est un peu le début des emmerdes. Si je
c'est ça. On peut le dire comme ça. J'aurais fait mille périphrases, mais finalement, on le dit. C'est vrai, ça va être le début de la fin parce que les femmes qui jouissent peuvent être dangereuses. Pourquoi ? Elles peuvent remettre en cause l'ordre social établi et surtout se passer des hommes. Et il va falloir combattre cela. Et il y en a un qui s'appelle Ambroise Paré, qu'on connaît tous finalement, qui lui va proposer même une solution radicale, chirurgicale, pour véritablement ôter cette mauvaise tentation du corps féminin qu'elle pourrait avoir d'user par elle-même.
Le sexe féminin sur RTL, il a mille surnoms, c'est dire qu'il fascine, le abricot, le con. Je vous en offre quelques-uns. L'abricot, le con, la fleur, le vallon, le barbu, l'origine du monde, évidemment. On continue
vous
de raconter. Mais non, moi ça me met de bonne humeur, vous voyez.
Vous donnerez les votes.
J'ai l'œil qui frise, ça se voit sur RTL.fr.
Vous écoutez RTL. RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Ah là, les choix musicaux d'André Facetta, ça
vous
fait beaucoup rire. Diane Ducret, notre invitée.
Ah,
on a eu Sexual Healing, maintenant la Sex Bomb. Diane Ducret qui publie La chair interdite chez Albin Michel.
Bonsoir.
Voilà, on se retrouve jusqu'au 19e. Alors vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais on continue. Le sexe de la femme suscite des peurs, des croyances farfelues. Celle-là, on pouvait pas ne pas la raconter. Longtemps, on a cru que le vagin pouvait avoir des dents.
Mais il a des dents.
Elle est bien bonne celle-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
C'est vrai que c'est pas banal. Je disais tout à l'heure que le livre, au-delà des anecdotes plus ou moins réussies ou plus ou moins amusantes, en tout cas de l'histoire, c'est vrai que l'histoire du sexe féminin est finalement à l'histoire de celle des hommes. Elle est excessive dans les grands espoirs et les grandes désillusions. Mais surtout, c'est un véritable voyage dans l'inconscient masculin historique. Et c'est vrai que j'ai retrouvé ce mythe qui existe alors en Europe. On va le retrouver sous la plume de Jacques Lacan, d'un certain Jean-Paul Sartre, mais également en Inde, en Afrique ou chez les Amérindiens, chez les tribus indiennes. Et finalement, c'est vrai que beaucoup ont pensé que l'organe féminin était rempli de dents. Et même parfois, on va créer des castes d'hommes spéciales pour aller rendre visite à la dame, on va dire, le soir des noces, afin de vérifier que le passage soit sain et serein. Et ces hommes-là sont grandement mis en avant pour leur courage et leur haute valeur morale, puisque finalement...
Vous avez trouvé le meilleur job sur Terre, ça, là.
Ils préfèrent le bien de la société au bien de leur parti. Ils sont prêts à tout pour le bien-être des autres. C'est courageux. Et il y en a des centaines comme ça d'expressions. Ça fait vraiment très peur, visiblement.
Au 19e siècle, toujours, la masturbation et le plaisir féminin sont très mal vus. Vous l'avez évoqué rapidement, mais je voudrais que vous nous dressiez la liste des produits interdits pour les femmes. Elle est à la fois absurde et impressionnante pour les empêcher, c'est ça, d'abuser du plaisir.
Alors c'est vrai que le 19e siècle, ça va être un peu un coup de massue. Finalement, ce qu'on remarque dans le livre, et un peu ce pourquoi j'ai eu envie de l'écrire, c'est que dans les périodes de crise, qu'elles soient politiques, religieuses ou économiques, tiens donc, c'est intéressant pour la période que nous vivons actuellement, dès lors que les fondements de la société vacillent un peu, eh bien, l'homme va avoir tendance à vouloir resserrer la vis, resserrer la main sur le sexe de la femme pour pouvoir dire « ceci est à moi », maîtriser encore la naissance, la reproduction, et dire toujours « je suis un homme, tant que ça c'est à moi, le reste peut s'écrouler ». Et finalement, c'est vrai qu'au 19e siècle, il va y avoir une chose, juste avant, il va y avoir la Révolution française, et tout va s'écrouler, les fondements de la société s'écroulent, donc il faut serrer la vis, et puis aux femmes. Il vaut mieux imposer aux femmes la moralisation qu'on n'a pas pu donner à sa propre société, c'est plus
d'ailleurs,
facile.
C'est pas un hasard, j'ouvre une parenthèse, si les femmes sont si peu citées dans l'histoire de la Révolution française, alors qu'elles ont joué un rôle très important.
Absolument, et absolument, comme dans la Résistance ou à d'autres moments, justement, où il faut que ça soit masculin. Et c'est vrai que...
Alors, cette liste.
Alors, justement, à ce moment-là, les femmes qui prennent du plaisir, ça va être des hystériques. Et on va... alors, y a, pour ne pas tomber hystérique, il y a c'est les femmes qui aiment les spiritueux, le chocolat, les clous de girofle, les épices, qui font de la machine à coudre, qui montent à cheval, et finalement, une très, très longue liste de choses comme ça, qu'il vaut mieux leur interdire pour éviter tout accident.
Yann Ducré, en même temps, au 19e, il y a cette thématique du plaisir féminin qui peut être une vertu thérapeutique. Alors, je lis dans votre livre, la chair interdite, qu'on invente une machine appelée le manipulator.
Oui,
ça
c'est
fait
vrai.
Peur et à la fois ça a l'air bien.
Alors, ce qui fait peur surtout, c'est que voilà, pour guérir ces hystériques-là, il faut quand même. Moi, c'est une des choses qui m'a vraiment donné envie d'écrire ce livre, parce que je me suis dit, non, mais on se fout de moi, c'est pas vrai, j'ai pas découvert ça, c'est incroyable. Au 19e siècle, donc en France, à Vienne, en Angleterre et même aux États-Unis, contre en effet ces hystériques qui viennent voir des médecins et les médecins disent. Je ne comprends pas. J'ai une patiente qui vient me voir quand son mari l'approche, elle a des palpitations, des hauts le cœur, et puis elle a chaud, des bouffées de chaleur, des frémissements dans le bas-ventre, avec une sorte de cri. Je fais une enquête cardiaque, il n'y a rien, je continue plus bas, et dès que je m'approche d'elle, ça recommence. Mon Dieu, que se passe-t-il? Et les gens se demandent vraiment, que se passe-t-il? Bon, je laisse à tout le monde le soin peut-être de trouver une réponse, même n'ayant pas fait médecine. Mais enfin, la réponse à ça, c'est quand même très grave, ça va être... la camisole de force, l'acide sur les parties les plus sensibles, le fer rouge, voire même la castration chirurgicale à certains moments.
Et le manipulateur, alors c'est quoi?
Et le manipulateur, c'est d'autres médecins qui étaient plutôt sympathiques et qui envisageaient les femmes avec peut-être une vision plus proche, qui se sont dit peut-être qu'au lieu justement de leur enlever toute forme de plaisir, on va leur en donner beaucoup, ça va les calmer. Et sauf que à ce moment-là, il y a beaucoup de demandes du coup. Les médecins qui proposent d'offrir ce genre de service aux dames voient leur cabinet vraiment enflé et la patientèle véritablement explosée. Et ça fatigue. Quand vous en avez 10 dans la journée comme ça, ils n'en peuvent plus, les pauvres médecins. Il faut bien les comprendre, ma bonne dame. Du coup, on va bénéficier des bienfaits de l'industrie et de la vapeur toute neuve pour créer justement ce genre de.
Le premier sextoy, c'est ça?
C'est le premier grand masturbateur.
Oui, c'est ça. Avant.
C'est le thème d'un film, le titre français c'est Oh My God,
oui.
Qui est très très drôle, qui raconte l'histoire du médecin anglais qui
s'appelle Mortimer, et c'est
le
vrai.
Premier à inventer
le
premier sextoy.
Oui, alors le pauvre, c'est qu'en plus lui, il voulait pas du tout que ça soit destiné à cet usage-là. Et il l'interdit et il en rage jusqu'à sa mort en disant mais qu'est-ce qu'on a fait de mon invention, c'est horrible, pourquoi on va mettre ça dans des femmes?
Pourquoi ça devait servir à quoi finalement, début le premier vibromasseur en fait.
À détendre les spasmes nerveux.
Mais c'est ce que ça fait.
Bah, oui, mais pas là. Visiblement pas là. C'était pas le but.
Et d'ailleurs, oui, il échappe ce vibromasseur à son créateur. On le trouve dans plein de bouquins, de revues de vente par correspondance.
Bah, oui, c'est les premières choses qu'après on verra plus tard dans La Redoute avec une dame qui sourit visiblement en tenant des objets étranges. On s'est tous demandé ce que c'était plus jeune.
Allez, on continue d'explorer ce sexe féminin. Il est absolument passionnant. C'est dans un instant sur RTL.
Vous écoutez RTL. Curiosité est un vilain défaut.
Être née femme, on va le découvrir dans La Chair Interdite, suivant les époques ou les aires géographiques, c'est à la fois une immense chance et une malédiction.
20h-22h, RTL.
Aujourd'hui en Occident, est-ce qu'on peut véritablement parler de libération? C'est toute la question que je pose.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Il est discret, voire invisible, il est complexe, il fait peur aux hommes. Ce soir, on part à l'assaut du sexe féminin et dans son histoire tumultueuse, drôle parfois, inquiétante souvent. Diane Ducré, vous êtes l'auteur de La Chair Interdite aux éditions Albin Michel. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, c'est les menstruations des femmes, les règles.
Ah bah oui, il fallait vraiment qu'on l'évoque.
Mais oui, mais ça aussi, ça a terrifié les hommes. Et susciter des légendes absolument ridicules, peut-être ?
Alors oui, c'est vrai, on va pas se mentir. On pense à une certaine époque, notamment à l'Antiquité, que ça fait pourrir les moissons si une femme se balade indisposée. On pense que ça fait fuir les nuisibles, donc dès lors qu'il y a une que les champs sont infestés de bêtes qu'on voudrait faire chasser, on met des femmes avec la jupe relevée, indisposées, qui courent dans les champs.
C'est parce qu'on ne comprend pas en fait pourquoi les femmes saignent.
Absolument. Ben non, on pense véritablement qu'il y a un problème et que finalement la femme saigne par la partie la plus défectueuse de son corps, de la même manière que, et c'est une des sources d'un très grand médecin de l'époque, de la même manière que le vin perce par les parties les plus défectueuses d'un tonneau ou d'une barrique. Voilà ce que l'on en pense. C'est assez tabou, c'est quelque chose d'impur. D'ailleurs, dans les trois grands monothéismes, il en est ainsi. Dans le judaïsme, la femme indisposée doit être chassée du camp car elle est impure. Tout objet qu'elle aura touché doit être nettoyé ou brûlé. Toute personne qui aura touché un des objets qu'elle-même aura touché sera impure. Elle reste impure 7 jours après son indisposition et elle doit sacrifier un certain nombre de pigeons avant de pouvoir réintégrer la cité ou le lit familial. Ça va quand même assez loin.
Et cette légende, elle perdure, Diane Ducré, encore au XXe siècle dans de nombreuses régions de France. On pense que la femme indisposée a des pouvoirs un peu miraculeux.
Oui, c'est vrai. Alors, plutôt bénéfique, mais c'est plutôt maléfique quand même, en effet. Ça fait tourner le lait, ça fait tourner la viande, c'est pas génial. Il vaut mieux fuir. Et alors, ce qui est intéressant, par contre, c'est pas, on raconte pas ça gratuitement dans le livre. À nouveau, il y a toujours un sens philosophique ou politique à découvrir. C'est à quel moment ça va devenir fréquentable? Eh ben, quand on va se rendre compte qu'il y a un business à faire. Quand on va se rendre compte que finalement, on va peut-être pouvoir inventer des objets pour les femmes à ces moments-là et que si on multiplie le fait que c'est tous les mois plus qu'il y a le nombre de femmes, eh ben il y a un très très gros business, peut-être le plus gros business de l'histoire du XXe siècle.
On parle de quoi? Des serviettes hygiéniques?
Oui, notamment, oui. Ouais. Et donc à ce moment-là, ça va devenir tout à fait fréquentable, on va en faire des publicités, on va vendre aux femmes. Alors qu'on leur vendait l'image de il faut rester au foyer, s'occuper de ses enfants, et maintenant on va leur dire mais sortez, allez faire du sport, vivez votre vie de femme libre, on va vous donner de quoi faire. Et à ce moment-là, il va y avoir vraiment une guerre, mais c'est une guerre marketing entre Kotex, entre Johnson & Johnson et les deux plus grandes firmes pharmaceutiques américaines qui vont se lancer vraiment dans une c'est la conquête spatiale, mais dans l'entrejambe des femmes. C'est d'abord la serviette, puis le tampax. Mais comment arriver à cette idée-là? Et ce qui est très marrant, c'est que c'est un type qui va faire ça tout seul dans son garage avec sa machine à coudre, parce qu'il est.
C'est un
homme parce qu'il est très attristé de voir sa femme très gênée chaque mois et de devoir rester à la maison. Et il est vraiment très peiné. Et il l'aime beaucoup et il va essayer de coudre, de compresser du coton, de faire des choses un peu plus adaptables.
Donc il
invente
la serviette hygiénique ou le tampon?
Le tampon. Et ça, c'est assez amusant. Inventé. C'est un homme. Et alors, la phrase très drôle, c'est que à ce moment-là, il la donne. Justement, il y a un jeune homme d'une de ces très très grandes firmes qui sont des manias américains, et le type est tout heureux de lui montrer ce premier engin qu'on imagine un petit peu approximatif, et le grand patron a une de ses trangles d'horreur en lui disant mais pauvre idiot, ne montre jamais ça à personne, il y a quelqu'un que si jamais un jour quelqu'un met ça sur le marché, tu ne sortiras plus jamais des tribunaux. Mais quelle idée horrible de vouloir mettre ça dans une femme. Et finalement, c'est d'autres qui vont l'acheter et qui vont devenir très, extrêmement très riches.
Diane Ducré, dans votre livre, vous nous l'avez raconté tout à l'heure, vous parlez de la découverte par un médecin du 16e siècle du clitoris, il y a aussi celle du point G. Qu'il découvre le point G ?
Ça, c'est assez charmant, c'est assez amusant. C'est un vieux médecin juif allemand qui a 70 ans à cette époque-là. Il s'appelle Ernst Graffenberg. Il avait une idée folle en pleine Allemagne hitlérienne, Allemagne nazie, c'était d'aider les femmes qui ne pouvaient concevoir à avoir des enfants et aider celles qui n'en voulaient plus à ne pas en avoir. Sauf que ça contrecarre un petit peu les plans d'Hitler pour lesquels la femme doit avoir le plus d'enfants, des enfants ariens bien évidemment, et rester à la maison. Il va être enfermé, bien évidemment. On va le faire échapper, on va le retrouver dans une course folle un peu entre le Japon, Hollywood et finalement à New York en 1950, il a plus de 70 ans et il décide vraiment de se dédier à ce problème du plaisir féminin et d'aider les femmes à trouver finalement l'extase, on va dire, en les guidant, en les conseillant, et il va y arriver, finalement en se disant qu'il a le plus beau métier du monde et à force de les écouter. Et c'est assez sympathique. C'est un monsieur, quand on lit dans le livre ce qu'il dit de ses patientes, il a un vrai rapport extrêmement humain, extrêmement paternel en même temps, tabou bien sûr pour l'époque, mais extrêmement bienveillant.
Et c'est quoi ? C'est une histoire de cartographie, si j'ose dire, ce que raconte ce médecin ?
D'abord, il dit qu'il n'y a pas un centimètre de peau sur le corps de la femme qui ne soit prédisposée au plaisir. Je trouve ça assez charmant. Et ce que l'on va appeler finalement point G, ce monsieur n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'autres lettres dans l'alphabet, et c'est intéressant. Mais en effet, il va situer une zone plus spécifique à l'intérieur du corps féminin qui est plus propice, on va dire, à déclencher l'excitation paroxystique, pour reprendre son terme. Je suis sobre.
L'excitation paroxystique. Effectivement, dit comme ça calme.
Bon, alors, le point G, on dit quand même que ça n'existe pas, en fait. Hein.
C'est aujourd'hui
en tout cas
encore
propre à chaque femme.
Aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore assez décrié. Alors, tant mieux, ça fait partie du mystère. Écoutez, le jour où on saura tout, le jour où vous saurez tout, messieurs, il y aura plus d'intérêt.
On est d'accord, Diane. En un mot, rapidement, on découvre que Marilyn Monroe est frigide dans votre livre.
C'est la même époque, c'est le même problème. Marilyn dit à un de ses, lors de ses séances avec son psychiatre, à la fin de sa vie, je suis la déesse du sexe sans sexe. C'est terrible. Et finalement, ce qu'on découvre, c'est que son plus grand secret, c'était qu'elle, en effet, elle n'arrivait pas à prendre du plaisir. Elle n'y est jamais arrivée, à part la dernière année de sa vie, avec justement cet homme qui va lui faire comprendre que le rapport au corps féminin, c'est pas si obligatoire. D'abord, qu'on n'est pas obligé de prendre ou de donner du plaisir, et qu'être femme, c'est beaucoup d'autres choses. Et elle va se libérer et le connaître avant de mourir.
C'est ce qu'on lit et découvre dans La chair interdite, Diane Ducré, paru chez Albin Michel. C'est absolument passionnant, beaucoup d'histoires très bien racontées.
Il y a plein d'autres histoires, plein d'autres anecdotes à découvrir dans le livre.
Thomas est déjà parti avec le livre, très bien. C'est la fin de cette émission, merci à tous. On se fait le petit programme de demain soir.
Ça peut aider parce qu'elle est très très bien aussi sur le papier l'émission demain. Allez, au sommaire, cette question, vivrons-nous dans l'espace bientôt ? Nous visiterons ces villes du futur qui accueilleront nos enfants ou nos petits-enfants.
On enfourchera plus tard.
Le lapsus de l'année. Synonyme Bonnec, c'est normal.
Voilà, exactement. Donc on va enfourcher notre bicyclette.
Ça marche aussi, hein. Après avoir parlé de sexe féminin, on enfourche.
Je suis plus du tout crédible, là, je vais laisser tomber. Il faut aussi parler donc de la bicyclette et puis aussi de la guerre qui opposa les scientifiques qu'étaient Louis Pasteur et Robert Koch. Et puis vous pouvez nous podcaster, bien sûr, aussi pour écouter tous nos lapsus délicieux.
Oui, moi j'en ai fait plein aussi. Bonsoir, Sidonie, à demain.
Bonsoir, Thomas.
Vous écoutez RTL.